du genre dans l'histoire, saison 2, épisode 2, Pouvoir et corps des femmes, accoucher et sage-femme royale en France au XVIIe et XVIIIe siècle.
Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, dans ce podcast, on s'intéresse beaucoup au corps des femmes et à la façon dont le corps féminin est souvent présenté comme une limite pour l'action, alors même qu'il est instrumentalisé et utilisé par les sociétés patriarcales au gré des besoins. Depuis quelques années, les historiennes et quelques historiens se sont intéressés au pouvoir des reines et aux différentes modalités de son expression. C'est ce qu'on appelle les Queenship Studies. Aujourd'hui, avec Pascal Mormiche, nous allons observer la façon dont les corps des reines et des princesses royales ont été mobilisés dans la reproduction d'héritiers et d'héritières par la monarchie française des XVIIe et XVIIIe siècles, dans des stratégies d'exercice et de conservation du pouvoir. Il s'agit donc ici de considérer la grossesse et la maternité comme des événements majeurs des dynasties royales. Cette question des grossesses royales nous amènera à observer plus largement la question du corps et de la sexualité des reines, ainsi que l'existence de différentes actrices et acteurs de la surveillance et, plus largement, de la reproduction des familles royales, en particulier les sages-femmes. À travers leur rôle et leurs compétences, c'est toute la question des savoir-faire féminins à l'époque moderne, leur acquisition et leur transmission que nous pourrons interroger. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs ?
Oui, bien sûr. Donc, je suis agrégée d'histoire et professeure à l'université de Cergy-Pontoise dans la formation des professeurs. Mon domaine de recherche est d'abord l'histoire de l'éducation. Donc, j'avais fait une thèse sur l'histoire de l'éducation des garçons entre 7 ans et 15 ans. Et quand j'ai eu fini ma thèse, je me suis poser la question en fait, de ce blanc entre 0 et 7 ans pour les princes et princesses. Et là, je me suis dit qu'il y avait un travail énorme à faire sur la petite enfance, et notamment en travaillant sur la petite enfance, sur la question fondamentale qui est la question des grossesses et des maternités à la cour et de tout ce personnel des maisons royales. Et c'est ce qui m'a permis de travailler et faire ces recherches.
Alors, tu as une très belle expression qui est le titre de ton dernier livre. Les reines sont celles qui donnent vie au royaume. En quoi la question de la fécondité des reines de France est-elle essentielle pour le pouvoir monarchique ?
Alors, en effet, ce n'est pas uniquement le mariage qui suffit à lier deux royaumes. Il faut véritablement, et c'est ça que j'ai découvert, engendrer l'héritier, incarner le mélange des sangs de deux familles royales pour que l'alliance diplomatique soit effective. D'où l'importance des différentes étapes dans la vie des reines. Ce qu'on appelle l'échange des princesses, ce que l'on appelle la virilocalisation, c'est-à-dire la localisation des reines qui viennent dans le royaume de leur mari, contrairement au reste de la population, où c'est le mari qui apporte sa charge de travail dans la ferme ou dans l'atelier. Après l'échange des princesses, la virilocalisation, il y a évidemment la nuit de noces, là qui aussi peut avoir deux étapes, et puis le plus important qui rend définitive l'alliance, la naissance de l'héritier ou de l'héritière. Ce sont donc bien les femmes qui donnent vie au royaume, les femmes sans lesquelles les dynasties ne se poursuivraient pas, dans laquelle l'alliance ne s'incarnerait pas, dans laquelle l'autorité royale ne serait pas complète. Ainsi, il me semble qu'il n'y a pas de miracle capétien comme on en a parlé pendant des années. Comme on le montrait sur les arbres généalogiques où on ne voyait que la succession mâle, où seuls les hommes étaient indiqués par conséquent, sans analyser le destin génésique des femmes. Et j'aime beaucoup l'expression d'Eliane Viennot qui dit, et c'est ce que j'ai tenté de faire, qu'il faut rendre compte de l'aléatoire travail de procréation qui soutenait l'édifice des monarchies européennes.
Quelle est l'importance de faire naître un héritier pour les reines ?
Alors, les reines, quand elles arrivent dans leur pays, elles ont comme mission essentielle de faire naître un héritier et donc de continuer la dynastie. La reine devient une femme par sa nuit de noces. De nombreux contrats de mariage inscrivent le fait que les reines pourraient avoir un pouvoir politique effectif en partage avec le roi quand elles auront donné un héritier mâle à la dynastie. Et c'est le cas, par exemple, de Marie-Thérèse d'Autriche qui le fait inscrire dans le contrat de sa fille ou de toutes ses filles en Europe. La reine sera reconnue comme une souveraine effective et souveraine de plein exercice, les mots sont importants, quand elle aura donné un héritier mâle. Par conséquent, la vacance d'héritier pendant 23 ans pour Anne d'Autriche lui a interdit d'obtenir une régence de guerre ou d'absence. Et Louis XIII préfère faire appel à sa mère plutôt que de faire appel à sa femme. La vacance d'héritière envoie donc par conséquent la reine à un néant politique. Et Alexandre Dumas, par exemple, transforma cette vacance de pouvoir, ou cette absence de pouvoir pour la reine, en une potentielle trahison au profit de son père, ou en une anecdotique tromperie avec le beau Buckingham. Et il fallait bien combler cette histoire pendant laquelle la reine ne jouait aucun rôle par absence d'héritier.
Alors, tu dis que la famille royale, à l'époque moderne, présente des formes de parenté multiples. Tu vas nous expliquer ce que ça signifie et aussi quel est le rôle des femmes justement dans ce système de parenté.
Voilà, alors il m'a semblé effectivement intéressant de montrer ces parentés multiples qui structurent la famille royale au regard des interrogations actuelles sur la parenté dont je ne suis pas une spécialiste. Et donc, en effet, on peut parler de la parenté spirituelle aussi, où le choix des parrains et des marraines est très présent dès la naissance de l'enfant. C'est une forme de liaison, en plus de la paternité, de la maternité, de la fraternité par la co-résidence à la cour. L'enfant prince est donc lié de façon multiple avec différentes personnes, quel que, qu'en soit le sexe, à la cour. Et ces liens de différentes formes sont extrêmement actifs, aussi importants les uns que les autres. Et par conséquent, la famille actuelle, qui contiendrait uniquement un papa et une maman, me paraît comporter d'importantes faiblesses dans les liens pour les enfants, pour leur développement, qu'il soit un développement spirituel, un développement intellectuel. Dans le système de parenté multiple qui caractérise la cour, qui entoure un prince ou une princesse, les femmes sont fondamentales. Alors, bizarrement, sans doute un peu moins la mère effective, donc la reine, que la femme déléguée à son éducation, c'est-à-dire la gouvernante. La gouvernante qui est dotée de droits extrêmement importants. Elle est nommée par le roi et elle est non révocable. Il n'y a que deux personnes dans le royaume de France qui sont non révocables. C'est le chancelier et la gouvernante. Et puis, par mes recherches, j'ai fait apparaître les nourrices, sur lequel on avait un regard un peu méprisant, hein, mais qui n'est pas donc seulement la nourrice qui donne la nourriture lactée, mais c'est bien celle qui suit l'enfant et qui le nourrit ou la nourrit pendant 2 ou 3 ans au minimum, hein, mais qui le suit effectivement tout le reste de sa vie, hein, je dis bien de sa vie, en ayant notamment le droit de dormir, si elle en le désire, dans la chambre du nourrisson et même à l'âge adulte, ce qui pose des problèmes quand ce fameux adulte se marie, puisqu'il y a donc par conséquent 2 nourrices dans la chambre, donc 2 sources d'espionnage dans la chambre. Voilà, la nourrice, personne extrêmement importante.
Tu écris que les grossesses et les maternités royales tiennent une place essentielle dans le culte du sang qui se développe au XVIIe, XVIIIe siècle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce culte du sang ?
Alors, je n'ai pas travaillé précisément sur le culte du sang, et il y a sans doute des historiens qui sont bien plus qualifiés que moi pour en parler. Cependant, il est clair que le sang royal permet de distinguer les membres des familles et les distinguer surtout du reste des princes, puis du reste de la société, tant au Moyen-Âge que dans l'Ancien Régime. C'est donc une inégalité supplémentaire dans l'ordre des privilégiés que d'être ou d'appartenir à la famille des princes du sang, ce qui est leur dénomination. Le sang est donc bien un principe de classement des familles à cette période. D'autre part, le sang permet la transmission des générations dans le temps, où on est du même sang, entre guillemets, et le sang se concentre par les mariages royaux jusqu'à arriver à un éventuel sang pur qui les distingue véritablement des autres humains, ce fameux sang bleu sur lequel on pourrait causer. C'est pourquoi un certain nombre de dispenses matrimoniales sont acceptées à environ 4 degrés de parenté, et ainsi le sang apparaît comme un principe de conservation des familles et provoque ce que les historiens ont appelé le réenchaînement des alliances, qui est très important à cette période où les filles viennent cimenter la paix. Et ces réenchaînements d'alliances, bref, ces mariages, se prévoient de longue date. Et on peut prendre l'exemple de Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV, qui, en décembre 85, fait venir l'ambassadeur de Savoie dans sa chambre au château de Saint-Germain-en-Laye, afin de négocier, quelques jours après la naissance, le mariage de sa première petite fille, née 2 mois auparavant, Marie-Adélaïde, avec celui qui était né, qui est le petit-fils de son frère Louis XIV. On les imagine tous deux à Saint-Germain dans leur chambre, en train de calculer, et je cite une lettre de Philippe d'Orléans, « Nous espérons que le duc de Savoie voudra bien cette alliance, et nous avons calculé que le roi aura 62 ans et moi 60 ans quand se fera cette alliance. Et ils discutent comme ça, que la chose serait faisable, c'est leur expression. Nous irons à Lyon, disent-ils à ce moment-là. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé 12 ou 13 ans après. Voilà. Donc on anticipe dès la naissance le réenchaînement des alliances, même si les enfants sont cousins et assez proches l'un de l'autre.
On en vient doucement à cette alliance, à ce mariage et à la façon dont ça se déroule. Est-ce que les futurs rois et reines, lorsqu'ils s'épousent, sont pubères ?
La question pour les garçons, en général, oui. Pour les filles, absolument pas. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus étonnée en travaillant sur la question, de montrer ce décalage institutionnalisé entre ce que j'appellerais le mariage administratif préparé par la diplomatie et la protection du corps de la jeune fille, le fait qu'on fasse attention à ce corps de très jeune fille. Alors, l'âge au mariage canonique, c'est 13 ans. Évidemment, elles n'ont pas encore leurs règles. L'âge réel de mariage, bien, ça peut être parfois 12 ans, mais ça peut être parfois 14 ou 15 ans, voire plus. C'est préparé par la naissance. Ils sont promis et promises depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Et ensuite arrive la puberté, et elle arrive quand elle le peut, bien évidemment. Et donc, la puberté, c'est 14, 15 ans, comme le reste de la société. Et parfois, les règles des reines ou des princesses sont encore très irrégulières. Et pendant ce temps-là, il n'y a toujours pas de nuit de noces. Donc, vous voyez ce décalage entre le mariage officiel et après, il y a la nuit de noces, dont on reparlera, je pense. Et puis, cette nuit de noces, elle est matérialisée par l'entrée officielle de la princesse dans la ville de Paris. Donc, une temporalité tout à fait particulière.
Je puis bien dire à ma chère maman et à elle seule que depuis que nous sommes à Compiègne, mes affaires sont fort avancées. Et je crois le mariage consommé, quoique pas dans le cas d'être grosse. C'est pour cela même que Monsieur le Dauphin ne veut pas qu'on le sache encore. Quel bonheur si j'avais un enfant au mois de mai. Pour mes règles, je les ai toujours fort et bien. Vous pouvez bien croire que je ne monte pas à cheval dans ce temps-là. Annonce de Marie-Antoinette à sa mère, le 17 juillet 1773, après une entrée solennelle à Paris.
Oui, donc il s'agit des lettres quasiment hebdomadaires que la fille écrit à sa mère. Donc Marie-Antoinette écrit à sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, qui veut absolument être tenue au courant de toutes les aventures corporelles de sa fille. Donc il est absolument habituel de parler des règles entre elles. Et Marie-Thérèse d'Autriche le fait avec toutes ses filles. Ça, c'est assez intéressant. Elle leur a même fourni un carnet pour noter leurs règles. Donc voilà, là, on a une lettre où Marie-Antoinette ment, on pourrait le dire comme ça, à sa mère, assez clairement. Et sa mère va contrôler l'information par le biais des ambassadeurs et des personnes qu'elle met autour de sa fille pour le savoir. Alors la question, c'est quoique pas dans le cas d'être grosse, voilà, le mariage serait consommé, qui est une question qui nous interroge encore. Donc y a-t-il eu relation sexuelle complète, incomplète? Par ailleurs, on sait que Louis XVI n'avait aucun problème d'impuissance, et il faut le répéter, mais des difficultés véritablement à avoir tous les deux, tout simplement, en tant que jeunes princes et princesses, c'est bien des relations sexuelles. Donc il y a une progressivité dans ce qu'on a pu appeler la consommation du mariage grâce à cette lettre. Mais Louis XV en a un peu assez d'attendre depuis 3 ans, et par conséquent, il a permis à Marie-Antoinette de rentrer à Paris, signalant aux fidèles et aux sujets que le mariage serait consommé. Et je mets bien au conditionnel.
Tu expliques que du fait du mariage, la sexualité s'impose à la princesse de façon assez brutale. Tu dis aussi que ces princesses sont éduquées avec la valeur impérative du consentement. Donc ça m'a fait naître 2 questions. Déjà, qu'est-ce qu'on sait de l'éducation des princesses à la sexualité et plus largement du rapport qu'elles ont à leur corps?
Oui, alors c'est vrai que la sexualité s'impose de façon brutale, car la jeune princesse arrive vierge au mariage, ce qui n'est pas le cas de son époux. Il y a eu aussi là une éducation à la sexualité du côté de son époux. Cette princesse n'a absolument pas le choix. Elle sait qu'elle vient et qu'il y aura la nuit de noces. Elle est soumise et elle doit consentir. Quant à son éducation, puisqu'elle a été éduquée à consentir, eh bien, j'aimerais moi-même en savoir un peu plus. On pense que, bien évidemment, on les éduque dans le but de leur dire qu'elles vont partir pour être mariées, mais je n'en sais pas plus. Leur mère leur fait un entretien quelque temps juste avant la séparation, je rappelle, qui est définitive. Cet entretien, bien sûr, est totalement oral. Et dans quels termes les mères parlent-elles de sexualité, j'en doute, hein. Mais elles parlent forcément de ce qui va arriver lors de la nuit de noces. Et je ne peux pas en dire plus. La princesse, je pense que la nuit de noces est comme l'angoisse pour la princesse. Mais ce n'est pas le seul. Et il y a bien sûr ces relations sexuelles imposées, mais il y aura aussi d'autres problèmes qui notamment sont l'éloignement définitif, la rupture définitive avec la famille, hormis les lettres et les portraits, et la rupture avec le personnel d'éducation, le renvoi du personnel d'éducation qui a toujours suivi la princesse jusqu'à 13-14 ans, ce qu'on appelle le renvoi de sa maison, l'apprentissage d'une langue étrangère, l'étiquette, tout cela contrarie et doit perturber profondément la jeune fille.
Alors, pour couronner le tout, ces nuits de noces sont publiques?
Non, je ne suis pas de cet avis-là. Les nuits de noces ne sont pas publiques parce qu'on a souvent pris... Enfin, il faudrait définir ce qu'est le terme public. Donc, effectivement, les deux jeunes époux sont mis dans une chambre officielle devant la cour, rideau tiré. Ils sont allongés et le garçon passe sa jambe par-dessus le corps ou les jambes de la princesse. Et puis, ça s'arrête là. En général, la reine-mère ou le père, le roi, sort à ce moment-là de la chambre. Et puis, tout le monde sort, évidemment, puisque si le roi sort, toute la cour sort. Et aussitôt, les deux maisons de la petite princesse et du prince relèvent les deux enfants qui vont aller dormir tranquillement dans leur chambre. Et donc, la réelle nuit de noces, elle est extrêmement discrète et elle peut avoir lieu 2 à 3 ans plus tard.
D'accord, donc en fait, la nuit de noces officielle, c'est une cérémonie.
Oui, c'est une cérémonie de cour, effectivement, où l'ensemble des maisons, et c'est tout, et de la diplomatie sont présentes, mais pas le public.
Alors justement, à propos des maisons, tu expliques que l'importance de la maison de la reine dans le bon fonctionnement sexuel du couple. Tu donnes l'exemple de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Oui, alors, il n'y en a pas d'autres, justement, et c'est ça qui m'a étonnée. Bon, les 23 ans d'infécondité du couple de Louis XIII et d'Anne d'Autriche m'ont toujours étonnée, et pas que moi, bien évidemment. Et donc, j'ai cherché à trouver une explication, et je me suis aperçue qu'il y avait un problème de personnel des maisons, puisque effectivement, quand la reine arrive en France, elle veut conserver à la fois le chef de la maison qui est d'origine espagnole, ainsi que sa nourrice, ainsi qu'un certain nombre de dames d'honneur. Et je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de ces personnes dorment dans la chambre royale. De l'autre côté, Louis XIII veut aussi conserver son propre personnel. Et donc, il est clair que ce personnel fait de l'espionnage diplomatique, pour parler avec un terme qui est fort. Il donne des informations à la cour d'Espagne, bien évidemment. Et ça, Louis XIII n'en veut pas. Et donc, le temps de renvoyer ce personnel et de négocier, parce qu'on ne peut pas renvoyer un personnel avec des maisons qui sont inégalitaires en nombre. Donc, c'est très, très, très diplomatique, cette affaire. Et par conséquent, Louis XIII n'ayant pas non plus une sexualité débridée, comme on le sait, ça prendra un certain nombre d'années avec des vraies inquiétudes pour Anne d'Autriche qui, évidemment, pendant ce temps-là, reste non pas stérile puisqu'elle fait des fausses couches, mais en tout cas inféconde.
Mais lorsque le roi et la reine ont des relations sexuelles, ils sont seuls dans une chambre ou pas ?
Oui, en général, ils sont seuls dans une chambre, de jour comme de nuit. Je pense que le moment où la relation sexuelle a lieu, ils ont écarté momentanément le personnel, mais le personnel derrière la porte, si je puis dire. Enfin, même si ce sont des pièces de 100 mètres carrés, le personnel est à proximité.
D'accord, le personnel n'est jamais loin, mais on peut quand même s'en débarrasser un petit peu quand on veut de l'intimité.
Oui, bien sûr, dans ce cas-là, la chambre devient privée.
Parlons maintenant grossesse, et ce qui se passe avant la grossesse, ou pour que la grossesse puisse avoir lieu. Il y a des pages dans ton livre qui font sourire sur la question des règles des princesses et des reines. Ces règles, elles sont guettées, attendues, surveillées, commentées non seulement par toute la cour, par toutes les cours européennes, mais aussi parfois parmi les populations. Du coup, la question qu'on se pose, c'est quel est l'enjeu lié aux règles princières dans toutes ces cours européennes ?
Alors, les règles sont quasiment d'ordre de l'information publique. Il n'y a d'abord pas de tabou sur ce sujet des règles. C'est très important. Elles sont le signal que la jeune reine, la jeune fille, peut enfanter. Et donc, la fameuse nuit de noces réelle, si je puis m'exprimer ainsi, va avoir lieu. Le sujet est donc parfaitement politique. Comment l'information circule-t-elle à la cour ? Ben, tout se sait à la cour. Hein. Bien évidemment par le personnel des maisons, par les femmes de chambre qui sont là en permanence, par les lavandières du linge qui voient bien ce qui arrive et puisqu'elles le lavent, par la gouvernante. La gouvernante est chargée d'en instruire le roi et la reine mère, si je puis dire, le roi en premier et en général même au conseil des ministres, comme pour la grossesse. Et bien évidemment, il y a les oreilles des mémorialistes qui traînent. Donc les mémorialistes sont à l'affût de ces nouvelles. Et évidemment, l'ambassadeur de la jeune fille informe tout de suite la famille maternelle. Et j'imagine les écuyers qui courent, on a les lettres qui courent vers l'Autriche ou vers l'Espagne, indiquer que la princesse a eu ses premières règles. Voilà, donc c'est bien de l'ordre public, c'est politique et c'est un signal important.
Oui, tu as réalisé dans ton livre un tableau statistique sur les mois de conception des enfants royaux à la cour de France. Et ça permet de voir qu'en fait, les moments de conception sont très marqués dans l'année. Comment tu peux expliquer ça ?
J'ai fait tout simplement ce calcul rétrospectif à partir de la naissance, un calcul pour trouver les conceptions. C'est assez classique en démographie, c'est finalement très simple à faire a priori, sauf qu'on a un certain nombre d'incertitudes sur la durée des grossesses, hein, à un mois près. Mais enfin, ça a donné quand même un ordre d'idées intéressant. Et en fait, ma question est partie de l'interrogation sur le fait de savoir si les rois très chrétiens respecter les interdits religieux en ce qui concerne la sexualité, puisque j'imaginais qu'ils étaient des modèles en matière religieuse, comme leurs sujets pouvaient s'y attendre ou les y attendre. Voilà. Et donc, je me suis posé la question du respect des temps clos. Donc, le respect des temps clos, c'est la fin de la semaine où il y a interdiction de relations sexuelles liées avec la fin de la vie du Christ. C'est ensuite les mois d'interdiction sexuelle, c'est-à-dire notamment l'abstinence quadragésimale du carême, donc les 6 dimanches de carême où on ne doit pas concevoir. Et puis, à l'automne, le respect de l'Avent, des 4 dimanches de l'Avent, hein, où, canoniquement, on ne doit pas concevoir. Voilà. Donc, je me suis interrogée sur ces conceptions. Et le fait est que les conceptions ont lieu en avril, c'est-à-dire après mars, après le carême, et que les conceptions ont lieu en décembre. Donc, comme beaucoup de chrétiens, il y a respect du carême, mais il n'y a absolument pas respect de l'Avent. Et donc, finalement, on peut dire que les mois de conception des familles royales s'apparentent tout à fait avec les mois de conception de leurs sujets, avec cette interrogation qu'ont les démographes sur l'Avent, qui n'est pas très respecté.
Venons-en maintenant à la grossesse des reines. Comment est-ce que la cour apprend la grossesse ? Et quelles conséquences, finalement, la grossesse de la reine va avoir sur la vie de la cour ?
Alors, dans ce système de cour, eh bien, ce qui est amusant, ce sont les rumeurs. Et ces rumeurs, on les trouve dans les lettres, dans le fort privé, ou on les trouve également chez les mémorialistes. Et les rumeurs de grossesse sont extrêmement précoces. Et ça me semble être une vraie différence avec le reste de la population. Dès les premiers jours de retard des règles, on commence à se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas grossesse. Et les rumeurs, je l'ai dit, sont relayées par les mémorialistes qui notent tout. Donc, vous voyez bien que les mémorialistes n'avaient pas comme but d'être publiés. Donc, ça veut dire que c'est même important pour eux. Et parfois, ces rumeurs sont complètement détrompées quelques semaines plus tard. Mais en tout cas, ça a été noté. Ensuite, il y a une annonce officielle de quand on sent que l'enfant a bougé, les premiers mouvements de l'enfant, donc vers 3 mois, eh bien, il y a une annonce officielle en Conseil des ministres. Et c'est encore un protocole, une habitude. Hein. C'est la dame d'honneur de la princesse qui vient l'annoncer officiellement au roi en Conseil des ministres. Et à partir de là, eh bien, s'enclenche tout le processus de la grossesse à la cour. D'abord, l'annonce à la famille, aux 2 familles, l'annonce à la cour, l'annonce au pape, hein, et aux autres sujets qui, évidemment, se réjouissent de la naissance royale.
Est-ce que pour les princesses elles-mêmes, lorsqu'elles ont conscience en fait qu'elles sont enceintes, est-ce que leur vie change ?
Oui, l'annonce de la grossesse fait que finalement, il y a énormément d'interdits ou de protections qui s'appesantissent sur la jeune princesse. Bon, ben d'abord, interdiction de monter à cheval, bien évidemment. Interdiction d'avoir des déplacements dans des carrosses un peu manquant de confort, si on peut dire. On va éviter qu'elle marche trop. Elle est donc protégée. On lui demande parfois de ne pas manger trop de fruits et de légumes pour éviter un certain nombre de problèmes intestinaux, etc. Et on sait à la cour que ce qu'on appelle la cour va être rompue, hein, c'est-à-dire qu'un certain nombre de spectacles ou de cérémonies vont être suspendus pendant l'indisponibilité de la reine ou de la princesse. Donc, oui, ça change un certain nombre de choses. Et je pense qu'on n'a pas encore assez étudié le rythme des cours en fonction de toutes les grossesses des princesses à la cour de France.
Oui, parce que ça interpelle. Parce que d'un côté, tu dis, ben, ces reines et ces princesses, elles ont une vie, elles ont pas possible. En fait, elles passent leur temps à devoir gérer et être présentes à des festivités ou à les organiser. Et par contre, dès qu'elles sont enceintes, eh bien... se pose la question du est-ce qu'on poursuit ou est-ce qu'on suspend ? Et comme pendant quand même une grande partie de leur vie, elles passent leur temps à être enceintes, puisque outre les grossesses et les accouchements, il y a aussi beaucoup de fausses couches, finalement, ça interroge sur le rythme de vie de la cour et sur le rythme de vie de ces princesses.
Oui, le rythme de la cour est profondément modifié. Et je pense qu'on peut encore trouver beaucoup plus de choses, notamment on retarde le voyage à Fontainebleau où on le déplace. À un moment même, Louis XIV est extrêmement en colère parce qu'il avait déjà déplacé le voyage à Fontainebleau et puis on apprend une fausse couche, donc il faut aller à Fontainebleau. Mais voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de rituels de la cour qui sont perturbés par ces grossesses. Et je pense que c'est intéressant de continuer à chercher sur ce plan-là et de mettre en évidence que la grossesse est politique à la cour de France.
Et puis c'est intéressant, effectivement, ce contraste entre privé et public, en fait, qui n'a rien à voir avec notre vécu actuel d'une grossesse. Finalement, tout est public.
Oui, tout est public parce qu'on fabrique l'héritier. Hein. Mais ce que je viens de dire, ça ne concerne uniquement que les reines et les princesses du sang. Hein. Et que par conséquent, une princesse ou une aristocrate qui a un emploi à la cour, elle n'a pas du tout cette contrainte et elle n'a pas de, entre guillemets, de congé maternité. Et donc, elle doit absolument tenir son rang à la cour, quitte à s'évanouir en cérémonie, etc. C'est quand même limité à la reine et la dauphine, en quelque sorte.
Oui, tu racontes, bon, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais il faudra y repenser pour un autre épisode. Tu racontes comment la Lavallière accouche tout en ne quittant pas son service. Et elle fait tout pour qu'on ne s'aperçoive pas qu'elle accouche.
Voilà,
elle dans
accouche
une même
pendant,
journée.
Pendant une messe, quoi. Voilà. Et donc, et elle se relève aussitôt, ce qui évidemment, fragilise profondément son corps.
Une fois que l'annonce de la grossesse a été faite à la cour, comment est-ce que le futur accouchement se prépare ?
Il y a d'abord la grossesse et puis l'accouchement et donc la venue aussi d'un enfant. Donc j'ai cherché à savoir si à la cour de France, il y aurait une étiquette obstétricale, à savoir un protocole systématique qui serait théorisé et ce qui serait en fait respecté à chaque accouchement. Et bien le fait est que oui. Il y a un processus de préparation qui est similaire pour environ les 150 grossesses que j'ai étudiées, avec des évolutions, parce qu'on est quand même sur deux siècles. Et donc, c'est la dame d'honneur de la reine qui est associée à la gouvernante de la maison des enfants. Donc là, on a deux maisons qui se mettent au travail dès que la grossesse est annoncée. Et elles organisent tout. C'est-à-dire, déjà, il y a la nomination des équipes dans la maison des enfants de France. Et là, ça bruit énormément à la cour de France parce qu'il faut un emploi. Parce qu'être employé pour un enfant de France, ça veut dire être employé pour une génération entière. Et donc, ça prépare un avenir glorieux à la famille qui sera nommée. Donc, nomination des équipes dans les enfants de France, préparation de la layette. La layette, c'est la préparation des linges de corps, mais également des linges de lit et de l'ensemble des objets matériels qui vont servir aux enfants. Et c'est matériel, et c'est généralement en argent et de très belle qualité, de très belles factures. Ils sont commandés auprès des marchands merciers, donc il y a un travail dans le luxe qui est commandé par le garde-meuble de la couronne et par le garde-robe et tous les différents services. Et donc, toutes ces commandes sont effectuées en général dès l'annonce, dès les 3 mois, l'annonce de la grossesse, parce qu'il faut un certain temps pour fabriquer à la fois les dentelles, l'orfèvrerie, etc. Ces objets précieux réclament un travail important et doivent être livrés, parfois juste à la limite de la naissance de l'enfant. Voilà. Donc, il y a véritablement tout un travail à la cour qui fait travailler les officiers et les officières des différentes maisons royales.
Une question importante, fille ou garçon ? Est-ce qu'une pression s'exerce sur les reines pour faire naître des petits mâles ?
Non, alors pas du tout. Donc il y a bien évidemment un impératif de naissance, comme on l'a expliqué, un impératif de fécondité, mais il n'y a absolument pas d'attente particulière en ce qui concerne le sexe. De toute façon, il faut être simple, on ne peut rien changer là-dessus, on ne peut pas faire évoluer les choses là-dessus. Et comme ils le disent souvent, eh bien, c'est en fait selon le désir de la providence, bien évidemment. Alors il faut bien insister sur ce point, il n'y a pas de préférence masculine. Et comme le dit l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche parlant à sa fille, les garçons suivront les filles, ce n'est pas un problème de sexe. Ce qui est très important pour la naissance, c'est l'heureuse délivrance, j'y mets des guillemets, c'est-à-dire la survie de la mère. Ça, c'est extrêmement important. Dans une dynastie, bien évidemment, les garçons sont aussi importants que les filles. Bon, les garçons pour le pouvoir politique, mais les filles pour favoriser les alliances. Et le cas de Louis XIV et de son frère Philippe est assez flagrant là, de ce point de vue-là, puisque Marie-Thérèse d'Autriche, l'épouse de Louis XIV, a donné 6 enfants au moins à son mari, sans compter les fausses couches. Donc, on pouvait penser que la famille, à la fois, aurait un héritier, ce qui était le cas, le grand dauphin, et puis surtout pourrait marier ses enfants. Or, ils sont morts. Avoir des filles était extrêmement important, et c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV, qui, lui, aura beaucoup de filles dont au début il n'est pas ravi, et puis finalement, c'est lui qui va jouer le rôle pour son frère de marier ses filles, donc les nièces de Louis XIV, à un certain nombre de familles royales étrangères et donc fabriquer l'alliance de cette manière-là. Donc voilà, une sororie permet de belles alliances pour les futures reines, ce qui est finalement aussi essentiel que le pouvoir.
Marie Leszczynska a d'abord donné 2 jumelles à Louis XV, mais son père Stanislas est déçu et l'écrit au maréchal Dubourg, son secrétaire. Vous saurez, avant que de recevoir celle-ci, l'heureuse délivrance de la reine. Je n'ai qu'à ajouter ce que j'ai appris par un gentilhomme ordinaire du roi, qui est ici, et par le comte de Tessé, qui m'en a apporté la nouvelle, à savoir que la reine, grâce au Seigneur, est aussi bien qu'on peut le désirer. Que les 2 princesses sont venues à terme, puisqu'elles ont des ongles et des cheveux, et qu'elles se portent bien. Que le roi a fait merveille dans cette occasion, témoignant une grande tendresse à la reine, qu'il est très content de se voir père de 2 enfants, que tout le monde juge d'une grande fécondité de la reine après cette première épreuve. Ainsi qu'il faut espérer, dans la grâce du Seigneur, qu'après le chemin si bien frayé, viendra celui que nous attendons. Paul de Rênal, Le mariage d'un roi, Paris, 1887.
Stanislas Leszczynski écrit une lettre privée et il est ravi d'abord que sa fille soit vivante. C'est déjà la première des choses. Et on voit bien que la nouvelle lui a été apportée alors qu'il n'est pas du tout sur place à Versailles. Ensuite, il est ravi que la gémellité, la naissance double, se soit très bien passée et que les filles soient à terme, ce qui est quand même un gage de viabilité, ce qui n'était pas du tout évident et surtout ça a été une surprise, ces princesses jumelles. Hein. Il est aussi ravi, si on écoute bien, il est ravi que le roi soit content. Je relis, hein, à témoigner une grande tendresse à la reine. Et puis, bon, bah, finalement, il dit, bon, on verra bien, et pour la prochaine fois, on aura sans doute des garçons. Mais c'est, vous voyez, c'est en dernier lieu qu'il dit, nous espérons quand même un dauphin.
Tu écris que les princesses et les reines passaient leur vie en état de grossesse. Mais malgré tout, tu as établi ce que tu appelles des régimes de grossesse en fonction du nombre d'enfants qu'ont eu les reines. Et nombre d'enfants durant leur période de reproduction qui aussi n'est pas la même pour toutes. Alors est-ce que tu peux un peu nous présenter les chiffres et puis les commenter ?
Alors il est évident que les femmes de l'Ancien Régime et jusque dans les années 1970 passaient une grande partie de leur vie enceinte, ce qui nous étonne toujours. Donc la grossesse n'était absolument pas une exception, que ce soit pour les femmes en général ou pour les reines sans contraception. Cependant, elles pouvaient espérer négocier avec leur époux. Et c'est pour ça que j'ai essayé de caractériser ce que j'appelle, avec cette expression qui n'est peut-être pas excellente, les régimes de grossesse. C'est-à-dire, j'ai essayé de calculer le temps passé enceinte par rapport au temps de la vie maritale, autant que je puisse le savoir. Et en fait, la question est née du problème de la dauphine, la belle-fille de Louis XIV à la cour, qui est de moins en moins présente, qui se retire de la cour et que critique extrêmement fortement Louis XIV parce qu'elle est en permanence enceinte. Donc j'ai calculé des pourcentages et il est apparu assez naturellement 3 régimes de grossesse que je n'imaginais pas. Donc ce que je peux appeler les reines assez peu enceintes, c'est-à-dire moins de 10% du temps marital. Les reines enceintes entre 25 et 40% de leur vie. Et puis les princesses que j'ai appelées sacrifiées à la maternité, qui passent la moitié de leur temps jusqu'à 75% de leur vie maritale enceinte. C'était le cas donc de cette dauphine bavière, la belle-fille de Louis XIV, qui d'ailleurs est morte assez rapidement.
C'était le cas de Marie Leszczynska aussi, non ?
Oui.
Alors, 11 enfants en 12 ans ?
11 enfants en 12 ans. Alors Marie Leszczynska a eu effectivement une fertilité importante avec d'abord ses 2 jumelles dont j'ai parlé. Et elle était enceinte effectivement tous les ans jusqu'à ce que ses médecins lui disent d'arrêter. hein, tout simplement. Et là, quand je dis négocier avec le mari, hein, il y a plusieurs exemples comme ça. Et donc, à partir de la dernière naissance, Madame Dernière, justement, eh bien, Louis XV discute avec son épouse. Ils conviennent tous les deux de n'avoir plus de relations sexuelles enceintes. Ce qui fait que Louis XV va prendre des maîtresses qui lui sont toujours de nos jours reprochées. Mais il y a véritablement une négociation dans le couple pour ne pas mettre en péril la vie de la reine.
Et on parle là des grossesses qui ont été au bout, auxquelles il faut ajouter les fausses couches. Oui. Alors qu'est-ce qu'on sait du nombre de fausses couches des reines et des effets sur leur santé ?
Les fausses couches, il y en a environ. C'est aussi très habituel dans la vie des femmes, c'est là qu'on s'en aperçoit. Donc c'est environ 4 à 5 fausses couches, je dis en moyenne, hein, il faut regarder en détail l'ensemble des fausses couches, avec une distinction sur les fausses couches, c'est-à-dire que... Alors d'abord l'expression... La reine s'est blessée, ça c'est la fausse couche. Donc c'est une expression qu'on n'a plus du tout de nos jours. La difficulté est de savoir à quelle période de grossesse la reine s'est blessée, parce qu'on ne sait pas tellement finalement, on a bien parfois un retard de règles, mais des fois les règles sont irrégulières. Donc la question est en fait la viabilité du fœtus, plus que la question de la reine et de son corps. Et donc de savoir si le fœtus est animé ou pas, donc est-il une âme véritablement. On peut considérer qu'un prématuré dans l'Ancien Régime vit à partir d'une grossesse de 7 mois et demi, 8 mois. De nos jours, on sauve les très grands prématurés vers 6 mois de grossesse. Donc là, c'est aussi une différence entre l'Ancien Régime et nous. Donc pour une reine qui est blessée, eh bien, quand la grossesse est déclarée, le protocole est celui d'une vraie couche, non pas d'une fausse couche, d'une vraie couche, c'est-à-dire qu'on la protège, elle accouche, on la protège, les médecins s'emparent de l'embryon, l'examinent, et elle reste 9 jours enfermée comme une couche normale.
Est-ce qu'on pratiquait l'avortement dans ces cours ?
Le terme, en tout cas, ne va pas être utilisé en ces termes-là, bien évidemment. Ce n'est pas du tout posé en ces termes. Les réponses sont très nuancées. Et étant donné l'injonction de maternité, il me semblait qu'il n'y avait pas d'avortement ou de remise à plus tard de la grossesse. Alors, on a bien vu qu'il y avait des fausses couches, mais mettons véritablement volontairement fin à une grossesse, très difficile de le dire. On sait que des femmes de l'aristocratie montaient à cheval, sautaient, tombaient, etc. On découvre quand même, en lisant les sources, que nos reines... Elles tombent sur leurs deux genoux. Est-ce que ce sont des pratiques accidentelles ou des tentatives pour mettre fin à des grossesses ? C'est pas du tout évident. Et on dit d'ailleurs, la reine est blessée ou la reine a chuté, pour dire qu'elle n'est pas tombée enceinte. Enfin, c'est l'inverse.
Oui, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de reines qui tombaient.
Oui, il y a beaucoup de reines qui tombent, notamment au XVIIe siècle, et en Autriche qui tombent souvent. Anne d'Autriche avait tout intérêt à dire qu'elle était enceinte pour ne pas être répudiée. Ça, c'est une autre question. Donc, sans doute a-t-elle accentué le nombre de grossesses pour dire qu'elle avait quand même des relations avec son mari. Cependant, Mercy d'Argenteau, qui est le diplomate de l'Autriche, qui évidemment essaye toujours de couvrir les actions de Marie-Antoinette, il a une expression, il dit « les échappatoires ». Parlant de Marie-Antoinette, c'est-à-dire les refus, les espacements de relations sexuelles. Donc on n'est pas dans l'avortement, mais on est dans des refus ou des espacements de relations sexuelles qu'on voit très nettement avec Marie-Antoinette. Alors médicalement, est-ce qu'elles peuvent mettre fin à leur grossesse ? La chimie, n'est pas développée. La pharmacopée des plantes est bien connue. Les médecins du roi ont prêté le serment d'Hippocrate qui leur défend d'utiliser des abortifs, il faut quand même le savoir. Mais cependant, la saignée, par exemple, est un formidable abortif. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Cependant, en comptant les règles de Marie-Antoinette, je me suis aperçue d'un phénomène un peu bizarre qui se reproduit régulièrement. D'abord un retard de règles, et puis selon le médecin de la reine, Lassonne, et selon celui qui écrit, c'est-à-dire Mercy d'Argenteau, l'ambassadeur, eh bien de très forts saignements qui vont suivre quelques jours plus tard, et des maux de ventre, des contractions. Et donc je sais qu'elle prend ce qu'on appelle des boules de Mars, c'est-à-dire du bitartrate de potassium et de la limaille de fer. Et cela, quand on discute avec les pharmaciens, on s'aperçoit que ça provoque de très très fortes contractions. Alors, ce n'est pas un moyen de contraception, mais il y a une question qui se pose et les informations sont assez difficiles à trouver sur ce sujet. Ce qui m'embête, c'est la reproduction de ce phénomène qui conduit donc, pour Marie-Antoinette, à un espacement des grossesses. Espace, on est grossesse, dont la reine fait porter la responsabilité sur son mari en prétendant qu'il est impuissant, ce qu'on sait bien que non, hein, bien évidemment. Et qui est en fait une construction historiographique assez récente, qui date de la biographie de Stefan Zweig dans les années 1930. Voilà. Donc, une publication intégrale des lettres de Marie-Antoinette, qui n'est toujours pas intégrale. La publication complète et non tronquée des lettres de l'ambassadeur, ainsi qu'une éventuelle publication du journal du médecin pourrait peut-être nous éclairer sur cette dissimulation qui me semble intéressante et apporter des perspectives sur l'histoire du couple de Marie-Antoinette et de Louis XVI.
Si on en vient maintenant aux grossesses qui vont être menées à leur terme, ça pose évidemment toute la question des compétences médicales du personnel qui va gérer la grossesse, c'est-à-dire les compétences en gynécologie, des sages-femmes et des chirurgiens qui encadrent les grossesses.
Oui, alors la gynécologie, c'est une science qui va se développer au XIXe siècle avec Baudeloc et d'autres médecins accoucheurs, hein, une science masculine. Autrement dit, la théorie et la connaissance de l'appareil génital des femmes restent encore largement méconnues au XVIIe et au XVIIIe siècle. Au XVIIe, on connaît à peu près les spermatozoïdes grâce à l'usage du microscope et de l'infiniment petit. En optique. Mais en fait, on ne sait pas grand-chose sur les ovules et sur l'ovulation. Voilà. Donc, la science gynécologique, c'est quand même un mot qu'il faut utiliser avec beaucoup de précaution. De nombreux ouvrages ont été rédigés sur l'obstétrique, en revanche. Donc, sur l'accouchement. Mais ce sont des chirurgiens, donc des hommes qui l'ont rédigé, qui ont cette capacité à rédiger. Et c'est donc bien un savoir masculin que l'obstétrique. Il faut distinguer ces chirurgiens qui sont des barbiers chirurgiens, qui sont de la corporation des chirurgiens, donc des artisans du corps, si on peut dire. Donc il y a ceux qui travaillent auprès des militaires sur les champs de bataille, donc des chirurgiens barbiers qui recousent les blessés, et puis les chirurgiens qui décident de travailler sur le corps des femmes à la ville et qui vont devenir les accoucheurs. Voilà. Donc le chirurgien, c'est celui qui entaille le corps, c'est celui qui le recoue, qui le touche avec ses mains, et c'est ça qui va le différencier des médecins. En ce qui concerne les sages-femmes, évidemment, elles ont un savoir, je dirais, immémorial et établi sur la pratique de très, très, très nombreux accouchements. Et les chirurgiens accoucheurs vont s'emparer de leur savoir et ils ont finalement un savoir assez commun. Et au contraire de les opposer, chirurgiens et sages-femmes, ils sont sans doute complémentaires et les familles font le choix d'utiliser soit un homme, soit une femme au moment de l'accouchement. Et sauf que chez les reines, c'est d'abord au début du XVIIe siècle plutôt des sages-femmes et au XVIIIe plutôt des accoucheurs.
Oui, parce qu'il y a toute la question de la pudeur de la reine. En fait, le corps de la reine et le sexe de la reine en train d'accoucher ne sont pas censés être regardés par des hommes.
Voilà, exactement. Donc c'est principalement Henri IV qui répond à la demande de pudeur de sa femme et qui va faire venir plus précisément une sage-femme lors des accouchements, bien que le mari ou que le chirurgien qui avait formé cette sage-femme soit dans les pièces adjacentes si un problème arrivait. Hein, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et par conséquent, la pudeur de la reine va imposer pendant un temps les sages-femmes à la cour de France.
On a quand même l'impression que déjà, le choix sage-femme ou chirurgien obéit à des modes. Et puis aussi que progressivement, au cours du 17e et du 18e, il y a une médicalisation de la grossesse qui fait qu'on va avoir plutôt recours à des hommes chirurgiens en se disant que la reine est plus en sécurité avec ses chirurgiens.
Oui, alors effectivement, il y a un effet de mode et l'effet de mode est différent à la cour de à la ville, donc à Paris ou à la cour, donc dans l'aristocratie de la ville et dans la famille princière. Alors il semblerait qu'au XVIIe siècle, à Paris, les aristocrates acceptent plus facilement, ou du moins veuillent se distinguer par une pratique différente du reste du peuple, en payant un chirurgien relativement cher, un chirurgien accoucheur. Et par conséquent, c'est un système de distinction aristocratique qui fait que les familles de la noblesse parisienne, qu'elles soient de robe ou qu'elles soient d'office, la noblesse traditionnelle, utilisent des chirurgiens. En revanche, à la cour de France, pendant ce temps-là et en même temps, ce sont les sages-femmes qui opèrent tout en gardant une clientèle privée à la ville. Voilà. Donc, quelle est la part de l'influence des reines étrangères dans leur cours ? Ça reste encore à déterminer, parce qu'elles amènent peut-être aussi des pratiques, des cours dont elles sont issues à l'étranger.
Oui, malgré tout, tu dis que les sages-femmes françaises sont réputées et qu'on va souvent envoyer de toute façon du personnel médical français dans les cours étrangères pour gérer les accouchements royaux. Et par ailleurs, tu rappelles l'importance de l'Hôtel-Dieu comme lieu de formation privilégié des sages-femmes. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Donc j'ai parlé du XVIIe siècle, là parlons maintenant du XVIIIe siècle. Effectivement, les sages-femmes sont de plus en plus formées, obtiennent une formation importante à l'Hôtel-Dieu de Paris avec des maîtresses sages-femmes. C'est une corporation, bien évidemment. Et donc au XVIIIe, on peut dire que pour la ville ou pour la population en général, les sages-femmes sont mieux formées, ont une formation médicale plus importante et elles interviennent auprès des femmes. Et pour parler des sages-femmes de la cour, cette fois-ci, qui interviennent à la cour. Elles n'ont pas un emploi domestique à la cour. Elles n'appartiennent pas aux maisons des reines, hein, les sages-femmes. Mais ces sages-femmes-là sont tellement renommées et elles connaissent tellement bien l'étiquette de la cour que finalement, eh bien, la reine de France ou la dauphine de France va envoyer cette sage-femme à sa sœur en Angleterre ou en Espagne ou en Savoie parce qu'elle a été ravie de l'accompagnement qui dure un mois, deux mois. Il n'y a pas que l'accouchement, il y a aussi toute la suite de couches. La période avant les couches et après les couches. Et donc, il y a une relation qui s'établit, une circulation des sages-femmes à l'intérieur des cours en Europe. Et je pense qu'il faudra les mettre encore plus en évidence. Et il se trouve que parfois, certains chirurgiens sont aussi appréciés des reines et circulent également en recevant de très beaux émoluments.
Oui, on a l'impression que la fortune des chirurgiens reste bien supérieure aux fortunes des sages-femmes, oui. Comme ça nous étonne.
Voilà, ça c'est tout à fait vrai.
Alors, pour terminer sur les sages-femmes, je voudrais quand même dire que certaines sages-femmes ont écrit des traités obstétricaux.
Ce n'est pas certaines sages-femmes, c'est principalement Louise Boursier, épouse bourgeois, la sage-femme de Marie de Médicis, qui était la femme d'un chirurgien hein, et qui a eu donc par conséquent une formation médicale importante et qui a été portée par l'aristocratie à la cour et appréciée de la reine. Et c'est elle qui va rédiger effectivement des observations. Et puis, elle est prise à la suite du décès de la femme de Gaston d'Orléans, décès à la suite d'un accouchement. Elle est prise dans une polémique où on sent bien que les chirurgiens et les médecins s'attaquent à cette sage-femme en prétendant qu'elle aurait laissé du placenta, ce qui est absolument faux. Et donc, elle se sent obligée à écrire. Et ce sont les écrits de Louise Bourgeois qui sont si connus. Par la suite, la plupart des autres sages-femmes des reines de France n'ont absolument pas écrit. Il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu'elles se remettent à écrire, qu'elles s'autorisent à écrire. Et bien évidemment, au contraire, les chirurgiens, eux, en ont largement profité entre-temps pour publier de nombreux ouvrages.
On a quand même le manuel de Madame du Coudray.
Ah, mais c'est beaucoup plus tardif et c'est pas du tout pour des reines de France.
Une infinité de coquettes disent qu'elles aiment beaucoup mieux aux accouchements où l'enfant se présente bien que le chirurgien les accouche qu'une femme. Cela est à présent de la mode. Il n'y a pas plus de 25 ans que la plus grande partie des femmes estoient toutes d'une autre humeur que je ne les vois. Il y en a eu toujours de mâles sages, mais se nettoient communément qu'à 7 heures. Louise Bourgeois, sage-femme de Marie de Médicis en 1617.
La question que tout le monde se pose, comment se déroule un accouchement royal ?
Le protocole qui se met en place est à peu près quasiment toujours le même. Donc, dès les petites douleurs, la reine réveille ses domestiques et sa maison. Si c'est un premier accouchement, là, c'est extrêmement important, donc il faut réveiller absolument tout le monde. Donc, tous les princes et princesses de la cour sont réveillés. Je me suis aperçue que si on en est au deuxième ou troisième ou quatrième accouchement, eh bien, il est clair que la reine ou la princesse se va tarder à prévenir tout le monde pour essayer de se garder un moment assez tranquille. Et ça, c'est assez amusant de voir comment elles peuvent, là encore, avoir une capacité à discuter avec leur mari et pour qu'il y ait moins de monde possible et que, bon, finalement, les personnes n'arrivent qu'au dernier moment. Ça veut dire aux grandes douleurs et au moment de l'accouchement. Alors, il faut se poser la question aussi du lieu de l'accouchement. Toutes les reines et princesses accouchent dans leur chambre. Donc, quand vous irez à Versailles, vous irez dans la chambre avec le décor Marie-Antoinette. Et là, il faudra penser que c'est là que tous les enfants de France sont nés depuis 1682. On accouche à la maison, qu'on soit reine ou pas, ou simple femme du peuple. On accouche avec son personnel, ses domestiques, ses valets. Et on accouche avec sa famille. Alors, évidemment, ça peut sembler faire beaucoup de monde. Et c'est cette incompréhension des gens qui sont dans la chambre de la reine en train d'accoucher, qui ont fait croire ce qui est faux, hein, les faits sont différents, qui ont fait croire que l'accouchement était public. Il n'est pas public, l'accouchement d'Eran, il est officiel. Il faut effectivement, celui qui certifier donc, l'officier d'état civil, selon l'expression moderne, donc ça c'est le chancelier de France, qui vient parfois avec sa femme. Hein, donc voilà, on a quelqu'un, le chancelier de France, l'administration qui est là, on a le curé, on a un certain nombre de prêtres, on a le personnel de la maison de la reine, ce qui fait du monde, principalement des femmes, les personnels de la maison de l'enfant, c'est aussi des femmes et qui sont présentes pour s'emparer de l'enfant dès qu'il est né. Et puis on a les cousins qui évidemment vont rétrograder si c'est un garçon dans l'accès au pouvoir, hein, et il faut absolument qu'ils soient présents pour justifier la naissance, hein. Et ils sont là avec leurs femmes. Et on a aussi les ambassadeurs qui sont là, qui représentent la famille maternelle en Autriche, l'Espagne, la Savoie ou l'Angleterre. Donc si on ne connaît pas la cour, et si on ne connaît pas le protocole de cour, et si on s'en tient uniquement au titre, prince de, comte de, etc., on a l'impression que c'est le public. Mais ce n'est pas du tout le public. C'est effectivement des gens qui ont un emploi, qui ont une fonction. Et il est absolument naturel, quand on accouche dans l'Ancien Régime, d'accoucher avec plein de gens de sa parenté et de sa famille. Il est très différent de l'accouchement à l'hôpital de nos jours, où on a le personnel médical, et c'est tout.
Mais par ailleurs, la pièce est organisée de façon à ce que tout le monde n'ait pas une vision de l'accouchement.
Voilà. Donc, ce sont les appartements de la reine. Donc, les appartements de la reine, c'est 4 ou 5 grands salons qui sont segmentés et fermés au moment de l'accouchement. La reine, elle est dans sa chambre. Et si vous allez à Versailles, bien, vous savez qu'il y a le salon de la paix qui donne sur la grande galerie. Et au moment de l'accouchement, eh bien, ce salon de la paix, il est fermé. Ce qui fait une grande pièce de retrait pour la famille royale qui n'est pas toujours dans la chambre de la reine. La chambre de la reine en tant que telle, elle est elle-même segmentée par des paravents ou par des tentes, des grands morceaux de tissu qui sont accrochés au plafond et qui font qu'il y a une sorte de tente autour du lit d'accouchement qui n'est pas le lit d'apparat que vous voyez actuellement à Versailles. Donc la reine a été mise sur son lit d'accouchement. Là, le personnel médical et le roi est toujours présent. Et puis derrière les tentures, derrière les différents paravents de cette pièce qui fait plus de 100 mètres carrés, il y a des princes qui entrent et qui sortent, le mari qui entre et qui sort, le personnel qui bouge dans les pièces à l'arrière. Et donc cette pièce extrêmement segmentée fait que finalement très peu de gens voient la reine en train d'accoucher. Et en revanche, beaucoup l'entendent par éventuellement le son, mais la reine ne crie pas, la reine se retient, la reine présente des vertus extraordinaires pour ne pas montrer qu'elle souffre.
Ça, on le sait.
Oui, enfin, on le sait. On trouve dans les sources que la reine a soupiré, mais jamais que la reine a crié. Et la particularité, c'est de laisser crier notamment Marie-Antoinette ou les reines de la fin du XVIIIe siècle, de les laisser exprimer leur douleur. Mais le reste du temps, elles se seraient contrôlées.
Voilà, là, tu m'aménages une magnifique transition avec ma question suivante. Tout ce que tu nous racontes, tout ce que tu nous expliques, nous interroge en fait sur la vie sexuelle, mais aussi la vie obstétricale de ces reines. Et on s'interroge hein, sur la dimension de violence obstétricale que ces reines subissent. Comment tu vois ça, toi ?
Alors oui, l'expression là, de violence obstétricale, moi je l'ai employée, mais c'est une notion qui est extrêmement récente au regard des pratiques d'accouchement. C'est un terme qui est apparu dans le monde francophone dans les années 2000, mais qui était déjà largement utilisé en Amérique du Sud quelques années auparavant. Donc je me suis intéressée, autrement dit, aux ressentis et aux émotions des reines et des princesses. Et finalement, elles doivent absolument ne pas exprimer leur douleur. Elles doivent se montrer vertueuses, comme je venais de le dire. Elles n'ont aucun antalgique. Hein, donc bien évidemment, on ne fait rien. Et la violence obstétricale m'est apparue, notamment à la naissance de celui qui va devenir Louis XV, quand son accoucheur, Julien Clément, va le retourner à la main dans le ventre de sa mère et puis ensuite le tirer par les pieds. Ce qui m'a semblé une naissance d'une violence extrême. Et ce que l'on peut appeler un exploit chirurgical d'un chirurgien. J'ai pensé tout de suite, évidemment, à l'autre violence qui n'est pas obstétricale, mais qui est la violence qui a été perpétrée sur le corps de Louis XIV avec la fistule anale de Louis XIV, l'opération de la fistule anale de Louis XIV. Même période, même type d'événement, d'une violence extrêmement importante et que le roi ou la reine ou la dauphine supporte avec un stoïcisme assez incroyable. Enfin, le terme de stoïcisme n'est peut-être pas bon, mais enfin, voilà, il n'exprime pas de douleur, bien évidemment. Voilà, donc on ne voyait pas de violence obstétricale avec les sages-femmes, on en voit avec les chirurgiens qui se font un nom sur le corps des dauphines et des princesses. Et à partir du moment où ils ont cette renommée de pouvoir retourner un enfant, etc., eh bien, ils sont employés dans d'autres familles aristocratiques.
On sent à quel point, finalement, cette vie obstétricale des reines et des princesses des cours européennes a dû être difficile, même si elles s'étaient perçues comme quelque chose de normal. Mais en tout cas, c'est malgré tout une très grande violence. On se demande si on a des témoignages de reines ou de princesses, c'est-à-dire est-ce qu'on sait quelle perception elles-mêmes avaient de leur vie obstétricale et de leur obligation à enfanter.
Alors non, j'ai juste le témoignage de la duchesse de Berry, qui est beaucoup plus libre que pour les reines et princesses précédentes, à la fin du XVIIIe siècle. Mais en revanche, non, elles ne s'expriment pas. Elles ne disent rien, ni sur leurs mots au moment des règles, ni sur leurs mots au moment de l'accouchement. Elles espèrent être libérées d'un gros paquet, comme elles disent souvent avec des guillemets. C'est à peu près tout ce qu'elles disent sur elles.
L'accoucheur Louis-Charles de Neu relate une discussion qu'il aurait eue avec la dernière princesse de Berry. Vous qui vivez avec les femmes, vous qui partagez leurs peines depuis si longtemps et qui les connaissez si bien, vous conviendrez tout au moins que leur sort est bien différent du vôtre, messieurs. Au docteur qui réplique sur les jouissances que la mère de famille éprouve au milieu de ses enfants, la princesse rétorque. Oh, ce bonheur, vous ne savez donc pas qu'il n'est pas fait pour les princesses de France. Vous le voyez partout, je le crois bien, et jamais chez nous. Nous n'avons que les souffrances de la maternité. À peine avons-nous donné le jour à un enfant, que sans pitié on nous l'enlève sur le champ et pour toujours. Nous autres princesses, on ne nous regarde que comme des mousses à enfants.
Si les princesses, finalement, ne recueillent pas les joies de la maternité, qu'est-ce qu'elles gagnent au moment de la naissance d'un enfant royal ?
Est-ce qu'on peut poser la question dans ces termes-là ? Moi, je n'en sais rien. De toute façon, gagner quelque chose... La question se pose, c'est la question de la stérilité, en fait, ou de l'infécondité. Or, il y a eu très peu d'infécondité ou de stérilité pendant la période que j'ai étudiée, au XVIIe et XVIIIe siècle. La stérilité aurait pu conduire à la répudiation, donc là, elles auraient gagné leur répudiation. Il me semble cependant que ces princesses et ces reines ont été choisies pour leur capacité à engendrer, et que l'examen prénuptial, entre guillemets, qui est fait, détermine si elles sont capables de porter des enfants, la saison des règles, la couleur des règles, la largeur des hanches, etc. L'examen prénuptial est quand même assez intéressant, même si on a peu d'informations. Donc elles font des enfants, véritablement. Et il n'y a pas de stérilité définitive, je le répète, comme dans les périodes précédentes, où là, on a eu effectivement des pèlerinages, des procès pour tenter une répudiation, des enfermements de princesses, mais tout ça n'a pas lieu au XVIIe et XVIIIe siècle. On l'a vu, la stérilité ponctuelle s'est manifestée pour deux couples, Louis XIII et Anne d'Autriche. Et bon, j'ai essayé d'apporter un éclairage par rapport à la maison, dans cette difficile vie conjugale de ce couple. Et l'autre couple infécond, c'est celui de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Fécondité qui finalement a duré 8 ans, ce qui n'est pas si énorme que les 23 ans précédents, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire. Hein. Et finalement, cette infécondité, elle est souvent entrecoupée de fausses couches, donc ça rassure sur la fécondité du roi ou du prince, et fausses couches qui rassure également sur la fécondité de sa femme. Donc, qu'a-t-on à y gagner ? Rien du tout, bien évidemment. Mais les connaissances médicales ne permettent pas, malgré les précautions prises à la cour, en matière de mouvement, de déplacement, d'activité, de nourriture particulière, de remédier à ces phénomènes qui dépassent de très loin les connaissances médicales de l'époque. Cependant, beaucoup, me semble-t-il, dans les familles princières, n'étaient absolument pas dupes de l'absence d'enfants. Selon l'expression du chirurgien Dionis, au sujet de Louis XIII, il dit beaucoup plus tard... Ce qui prouve que ce n'était pas le sacrement qui fait former les enfants, mais c'est quand le mari fait son devoir, dit Dionys. Et puis l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, à propos de sa fille, aura cette phrase qui montre qu'elle n'est absolument pas dupe de l'absence d'enfants dans ce couple, en disant « La suspension réitérée des habitudes matrimoniales n'était pas la marque d'une passion bien vive entre les époux ».
Merci Pascal. Alors maintenant, comme d'habitude, nous allons essayer de voir en quoi ces recherches sur le corps et les grossesses des reines peuvent enrichir vos cours d'histoire-géographie au collège et au lycée.
Donc tout d'abord, on peut commencer par poser le même constat que d'habitude, qui est que les programmes ne prennent absolument pas en compte les femmes sur les questions de la transmission du pouvoir ou la place des femmes en politique. En ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, on peut se pencher sur une partie du programme de seconde pour le lycée, notamment dans le thème 3 du programme de seconde, le premier chapitre parle de l'affirmation de l'État dans le Royaume de France à l'époque moderne, où on pourrait imaginer y insérer des questions de grossesse des reines et des princesses. Et au collège, les programmes donc, sont effectivement un peu plus lacunaires et du coup peuvent peut-être aider à mettre davantage de femmes, notamment en cinquième, sur le thème 2, qui parle également de l'affirmation de l'État monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois, ou encore sur le thème 3, qui porte sur la figure du prince de la Renaissance jusqu'à l'absolutisme, où le programme demande néanmoins d'étudier trois figures royales, à savoir François Ier, Henri IV et Louis XIV. Première question, Pascal, est-ce que dans les sources que tu as étudiées, tu as des idées d'extraits de lettres ou d'ouvrages ou d'autres types de documents qui pourraient être utilisés dans des cours à destination d'élèves de 5e ou de 2e?
Oui, alors moi, il y a une question qui m'intéresse, mais qui n'est pas traitée ni demandée dans les programmes, qui est de savoir si on peut parler des régences, des périodes de régence, mais je pense que ça ne prendrait qu'un quart d'heure ou 20 minutes sur un cours, et ce serait à peu près tout. Et surtout, me poser la question, au regard des grossesses, si les régentes ont été enceintes et ont exercé le pouvoir. Et effectivement, Marie-Thérèse, la femme de Louis XIV, en 1672, quand son mari part vaillamment combattre à la guerre de Flandre, est nommée régente. Louis XIV a nommé sa femme régente, et par conséquent, elle est enceinte, elle accouche, elle tient le conseil jusqu'à accoucher, et le lendemain elle est debout et elle prend des décisions, et on a effectivement un certain nombre de textes qui sont signés de sa main alors qu'elle a accouché. Mais c'est à peu près tout ce que je vois sur ce sujet-là.
On n'a pas énormément de choses qu'on peut étudier effectivement avec les élèves. Il y a des tableaux qui montrent effectivement la transmission du pouvoir lors d'une régence, mais bien sûr les femmes ne sont jamais enceintes, donc en document iconographique c'est effectivement très complexe.
Moi, je pense que plus largement, alors la question de la régence, on l'avait déjà abordée dans la saison 1 avec Lucie Gerdeau, et je vous renvoie à l'épisode que nous avons réalisé sur ce thème-là. Effectivement, interroger la régence, c'est une façon aussi d'interroger le pouvoir des femmes. Mais là, il me semble que sur la question de la grossesse et du corps des reines, c'est quand même important de faire intervenir la notion d'alliance et la notion de sang que tu as expliqué au début, c'est-à-dire montrer que un roi ne se suffit pas à lui-même. Non seulement il est inséré dans toute une série de rapports de parenté, mais en plus, cette parenté, si elle peut se nouer et se transmettre, c'est bien parce qu'il y a des femmes qui circulent entre les familles. Et donc, moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut enseigner à des élèves la notion de dynastie sans passer par les femmes et par le corps des femmes.
Oui, et c'est justement l'idée que j'avais pour ça, qui est de centrer davantage la question de la transmission du pouvoir et de la conception d'un héritier ou d'une héritière, et bien évidemment, pas forcément prendre en compte la grossesse en elle-même, mais ce qu'elle implique.
Je pense qu'on peut, quand on y fait attention et qu'on fait court, nous les enseignants, et bien c'est peut-être simplement parler de Catherine d'Aragon. Ah oui, d'où vient-elle ? Quel est ce pays ? Anne d'Autriche, elle vient d'Espagne, elle vient du Piémont, elle vient de Naples, etc. Et montrer cette famille des souverains, donc, je vais le dire un peu brutalement, ces reines émigrées qui sont arrivées en France, ces migrantes arrivées en France et qui sont cependant reines.
Oui, et on peut imaginer que rien qu'avec une carte et un arbre généalogique, eh bien, on a des supports documentaires qui peuvent tout à fait nous permettre de parler de la circulation des princesses. Il y avait aussi la question et la notion d'échange des princesses. Bah, rien que ça, ça introduit les femmes dans le questionnement sur la monarchie, le pouvoir et la transmission du pouvoir et l'affirmation de l'État aussi, puisque avoir un héritier, pourquoi c'est si important, c'est si précieux ? Eh bien parce que avoir un héritier, c'est aussi ce qui va asseoir le pouvoir d'un roi et d'une dynastie sur un État.
Donc à ce propos, pour les enseignants et les enseignantes qui enseignent au collège, pour les classes de 5e, on peut notamment, sur ce chapitre du prince de la Renaissance au roi absolu, plutôt que de simplement étudier une courte biographie des trois rois Le programme, encore une fois, est assez large. On fait un peu ce qu'on veut sur ces présentations-là. On peut passer par leurs épouses, justement, et étudier davantage la façon dont s'est construit les dynasties autour de ces figures royales. Et par conséquent, ne pas étudier que la figure du roi, mais le couple et le rôle de la reine dans l'affirmation du pouvoir, puisque l'affirmation du pouvoir royal passe par la création d'héritiers et d'héritières.
Et à ce propos, on peut faire analyser un très beau tableau de Nocré sur la famille du dauphin ou la famille de Louis XIV, où l'on peut, avec, comme tu l'as dit, une carte et un atlas, montrer véritablement comment sont constitués à la fois les deux couples principaux de Philippe d'Orléans et de Louis XIV avec son épouse, et puis ensuite où vont être mariés ces enfants-là. Et donc là, on aura une carte européenne avec l'importance des filles qui font l'alliance.
Mais on pourrait même imaginer, soyons fous, faire réaliser une carte aux élèves pour représenter les circulations des enfants royaux à travers l'Europe et du coup concrétiser géographiquement les alliances.
Et ce serait très intéressant puisque plus on avance dans le collège et le lycée et plus on demande aux élèves d'avoir une vision plus européenne en fait du pouvoir. Et ça permettrait déjà de commencer à enclencher une réflexion chez les élèves sur ce côté européen du pouvoir.
Il y a aussi un autre aspect, c'est quand on travaille sur la monarchie absolue, il y a la vie à la cour. Là encore, je ne vois pas trop comment aborder la vie à la cour sans parler d'un côté du rôle des maisons et sans parler du rôle des femmes, puisqu'elles ont un rôle absolument essentiel dans l'ensemble des festivités qui sont organisées à la cour.
Et donc, à ce propos, il faut que vous soyez absolument vigilants sur le terme de courtisan. Ce n'est pas simplement des gens qui viennent pour s'amuser à la cour de France. C'est une vision complètement dépassée de la cour de France. Les courtisans et les courtisanes, et voyez bien le problème posé par ce mot-là, sont des gens qui ont des emplois particuliers dans les maisons du roi, maisons de la reine, maisons des enfants de France. Et par conséquent, ils sont là pour travailler. Et à ce titre, ils ont un appartement à Versailles, 4000 personnes vivaient à Versailles. Je pense que l'idée de réfléchir sur le rôle des courtisans et donc sur les titres qu'ils ont, donc dame d'honneur, gentilhomme, le grand écuyer, tout ça, ce sont des titres de maison et des titres d'emploi à la cour de France. Donc revoir un peu les termes de ce qu'on appelle entre guillemets courtisans.
Oui, en fait, c'est ça qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que quand on travaille, que ce soit en cinquième ou en seconde, sur l'affirmation de l'étoile royale, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de ne parler que du roi. Il y a effectivement tout le fonctionnement de la cour qui doit être présenté aux élèves, et n'oublions pas les femmes, évidemment, dans cela.
Et d'ailleurs, je trouve que quand on étudie la monarchie sous cet angle de la cour, eh bien, ça devient très difficile d'invisibiliser les femmes. En fait, l'invisibilisation, elle vient d'erreurs et puis elle vient d'incompétence aussi dans l'analyse du fonctionnement de la cour et de la monarchie. Parce que dès qu'on met le nez dans les archives, les femmes sont partout et elles sont partout avec des responsabilités. Alors peut-être pas avec des possibilités de décision et encore, ça questionne toute la relation entre femmes et pouvoir. Mais en tout cas, elles sont absolument pas invisibles et elles ne sont pas non plus réduites à des rôles ni de représentation ni de séduction. Donc finalement, travailler sur les femmes et travailler sur le genre à la cour et dans les monarchies, c'est aussi avancer plus globalement dans la connaissance du fonctionnement de ces cours.
Toute la difficulté là, c'est bien sûr de trouver les documents qui permettent de travailler sur ça. Au passage, je rappelle l'existence de notre ouvrage « La place des femmes dans l'histoire », où tout du moins, il y a possibilité de prendre des extraits de ces chapitres-là qui sont abordés dans ce livre. Puisque bien sûr, les manuels, pour l'instant, ne perdons pas espoir, présentent très peu de documents.
Oui, et donc il faut aussi que vous alliez regarder sur le site du château de Versailles, notamment sur le centre de recherche du château de Versailles, CRCV, où un certain nombre de profils ou de biographies ou de textes sont mis en ligne, bien évidemment, et sur le site également cours-de-france.fr, où on travaille beaucoup sur les femmes à la cour de France.
Il y a aussi le site d'Eliane Viennot, sur lequel il y a énormément de ressources qu'on peut utiliser en classe.
Et à ce propos, c'était l'idée d'une séance que je pensais réaliser en classe de seconde, toujours sur cette question de l'affirmation du pouvoir royal, où à partir du site d'Eliane Viennot, on peut proposer une étude de la loi salique. On n'en a pas parlé pendant l'épisode, mais la modification, la transformation de la loi salique pour permettre justement d'éviter la transmission du pouvoir par les femmes est très intéressant. Et Eliane Viennot, sur son site, met plusieurs extraits justement de ce texte de loi avec des explications qui permet assez simplement finalement d'aller prélever des documents qui permettraient justement de montrer cette construction de la dynastie à travers une loi ancestrale qui finalement en fait a été complètement modifiée.
Là encore, hein, c'était une question qu'on avait abordée avec Lucie Jardot. Donc je vous engage à aller réécouter l'épisode enregistré avec elle sur le pouvoir des reines et des princesses. Vous y trouverez aussi des propositions de mise en œuvre dans vos cours.
Voilà. Et dernier point auquel j'ai pensé en faisant cet épisode, on est beaucoup de collègues dans le secondaire à passer le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Plutôt en quatrième d'abord, et c'est quand même un film qui montre cette vie de cour, cette question de grossesse, de sexualité, etc. Pascal, qu'est-ce que tu en penses de ce film-là ?
Alors ce film a été très important quand il est sorti, parce qu'il a montré une jeune fille arrivant à la cour et s'opposant à un certain nombre de choses, notamment l'étiquette. Moi je trouve intéressant que vous preniez par exemple le moment de l'habillement, où il y a des moments qui sont intéressants dans ce film, mais c'est quand même une vision tout à fait particulière, décalée, adaptée à notre époque et pas forcément à l'époque de la fin du XVIIIe siècle. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, vous l'avez compris, sur Marie-Antoinette et à revoir sur Marie-Antoinette. Voilà.
C'était aussi ce que j'avais envie de dire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que l'exemple de Marie-Antoinette pour travailler sur le rôle de la reine et puis la liberté de disposer de son corps, l'agency autour de la possibilité de disposer de son corps et de sa sexualité et de la gestion des grossesses, là, il y a vraiment énormément de choses tout à fait passionnantes à faire.
Et c'est vrai que ce film-là a, au moins de façon assez simple, la capacité à montrer tout l'enjeu qu'il y a autour de la conception, de la consommation du mariage, de la conception d'un enfant. Que ce soit un garçon ou une fille, effectivement, on s'en fiche. Mais ça nécessite effectivement que ce ne soit pas un film qu'on montre à la fin de l'année pour gagner un petit peu de temps, mais qu'on contextualise.
Mais ce qui me dérange, c'est quand même le poncif de l'impuissance et de la petite opération de Louis XVI, qui n'est absolument plus prouvé actuellement et qui était une vision du diplomate autrichien pour s'assurer de son emploi.
De toute façon, si on passe à des questions de méthode, quand vous utilisez des films du cinéma du coup, dans vos cours, très compliqué de passer des films en entier. Donc là, on peut en profiter avec ce film-là. Choisissez des extraits petits, mais dont on pense qu'ils illustrent des réalités et non pas du fantasme autour du couple Marie-Antoinette-Louis XVI.
Effectivement, du coup, trois extraits me viennent en tête dans ce film-là. La scène de l'habillement, effectivement, au moment où Marie-Antoinette passe la frontière, qui est assez parlante. La scène peut être intéressante aussi où le frère de Marie-Antoinette explique, avec une métaphore d'horlogerie, à Louis XVI comment s'y prendre, quand on comprend qu'en fait c'est juste deux jeunes qui ne savent pas s'y prendre. Et peut-être la scène de l'accouchement éventuellement. Enfin, il n'y a pas énormément de monde à cette scène-là, si je me souviens bien, mais que ça montre aussi le côté, la présence de personnel féminin comme masculin au moment de l'accouchement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal.
Oui, je suis assez d'accord. En ce qui concerne l'apprentissage éventuel d'une sexualité par le frère de la reine, c'est assez amusant d'imaginer que ce soit l'Autriche qui soit obligée d'expliquer à la France. Et donc là, on est encore sur une vision très autrichienne, très impériale, parce qu'évidemment, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Oui. Mais bien évidemment, le frère est venu dire plutôt qu'il fallait faire un enfant, quoi. Il fallait y aller pour de bon, quoi.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux pour ce débat passionnant qui, je l'espère, va donner beaucoup d'idées à nos collègues pour essayer de se souvenir que lorsqu'on parle des rois, il y a des reines et que la présence des reines et leur rôle à la cour et leur rôle dans la constitution des dynasties n'est pas du tout à négliger.
Vous pouvez retrouver la bibliographie qui concerne cet épisode sur le site internet de Mnemosyne. Elle pourra vous aiguiller et vous aider à réfléchir sur la question du corps des reines et de la transmission du pouvoir. Ce podcast vous est présenté par l'association Mnemosyne pour l'histoire des femmes et du genre avec à la production Cécile Béguin, à la réalisation Noémie Lemur et à l'écriture des textes Clémentine Letellier. Si vous souhaitez nous soutenir dans nos activités de promotion de l'histoire des femmes et du genre, dans la recherche historique comme dans la formation des enseignants et enseignantes du secondaire, vous pouvez nous soutenir en adhérant à notre association via notre portail Hello Asso, dont le lien est disponible sur notre site. Toutes les infos sont en description de cet épisode. Merci également au studio La Poudre, situé à la Cité Audacieuse, de nous permettre d'utiliser leurs locaux. À bientôt !